Ça fait assez longtemps depuis qu'on était en Jacques, mais à chaque fois que j'arrive d'avoir une occasion de revenir à notre série dans le livre de Jacques, qui fait à peu près un an depuis qu'on a commencé. On va finir le chapitre 4 aujourd'hui. Et je voudrais que vous preniez vos Bibles et regardez, on va juste lire le texte. Il n'y a que 5 versets. Jacques chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17. Ok? Donc, si vous avez besoin d'aide, de trouver la bonne place, demandez peut-être la personne à côté de vous, ou s'il n'arrive pas, la personne devant vous, ou si elle n'arrive pas, la personne derrière vous. Partagez votre Bible avec ceux qui ne l'ont pas. Je suis content de voir même plusieurs personnes en pleine milieu de l'été, dernière semaine de juillet. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, et voilà le titre, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. J'ai besoin de vos prières pendant que je cherche à clarifier le sens de ce passage. C'est un passage très, très, très pénétrant. Et je vais, encore une fois, demander le Seigneur de me donner la lucidité. Parfois, c'est plus facile que d'autres. Mais que ça puisse vraiment être une nourriture pour notre âme et quelque chose sur quoi nous pouvons agir. Prions. Père Céleste, tu connais mes limites. Tu connais mes blocages de langue parfois, de réflexion. Tu sais que ta parole mérite la meilleure exposition et interprétation. Mais tu permets que les personnes misérables qui sont dans les yeux du monde des nuls puissent prendre ta parole et que l'Esprit Saint, son auteur, puisse l'éclairer. C'est mon désir, Père. Tu connais. En tant que chrétien, on cherche à connaître ta volonté pour notre vie. C'est inculqué depuis la nouvelle naissance dans la vie de chaque chrétien qui veut te connaître, qui veut connaître ta volonté pour sa vie. Permets, Seigneur, que nous soyons alertes. Je sais que le temps fait chaud. Il est difficile parfois de maintenir l'attention, mais que tu nous aides à le faire. Et nous te rendrons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Depuis que j'étais très jeune, je crois qu'il n'y avait presque jamais une journée où je n'entendais pas de mon père ces mots. Si Dieu le veut, parlant des choses des grandes décisions à faire pour la famille, parlant des choses minuscules, presque banales, très souvent, très facilement. Il sortait de la bouche de mon père, on fera ceci si Dieu veut. En anglais, il disait, the Lord willing. Si Dieu veut, on fera ceci. Et cette phrase indique certaines choses, indique une certaine mentalité avec au moins deux points à souligner. Ça indique l'attitude qui reconnaît l'incertitude de la vie et de l'avenir, du temps. Je me rappelle très souvent, juste pour nous amuser, quand on était petit, on dirait, papa, est-ce que tu vas? Parce qu'il mettait son manteau pour sortir dans le froid, et il dit, mais moi je vais au ciel quand je meurs. Non, mais maintenant, où est-ce que tu vas? Mais je ne sais pas. Je crois que je vais aller au magasin pour acheter du pain. Mais je risque d'avoir une crise cardiaque, je risque d'être tamponné par une voiture. Il n'y a aucune certitude que j'arriverai en 5 minutes au magasin. Je planifie de faire ça, mais ce n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, quand je meurs, je serai au ciel. Donc, je dis ça. Donc, il faisait ça pour nous faire plaisir, pour qu'on dise, oh, papa, il a dit, oui, je sais, je connais tout ça. Mais où est-ce que tu vas? Pour nous, c'était plus important les 5 kilomètres qu'il allait faire que l'éternité dont il parlait, et il voulait quand même nous sensibiliser sur le fait que la vie est courte, la vie est incertaine, les décisions doivent être faites dans cette lumière. Et la deuxième chose, c'est ça indique une soumission à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, n'est pas un constat négatif. Oh, tu sais, je veux faire ça, mais il se peut que Dieu veut autre chose. C'est jamais ça. C'était toujours, je crois que c'est ça le meilleur choix, mais il se peut que Dieu sait mieux. Et donc, il se peut que ces plans que j'ai risquent de changer. À travers la Bible, nous voyons ça devient clair que la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour le chrétien normal est quelque chose de base, fondamental dans la vie chrétienne, c'est ce désir de connaître Dieu et de connaître sa volonté. Exemple, juste quelques versets. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est gravée dans mon cœur. Je prends plaisir de faire ta volonté, mon Dieu. C'est une déclaration d'un désir de base de chaque chrétien. Je prends plaisir de faire ta volonté. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. C'est comme le psalmiste dans le premier verset ici, exprime son désir de faire la volonté de Dieu, mais dans cet autre verset, reconnaît la difficulté de même vouloir faire sa volonté. Comme si c'est une chose presque contradictoire qui agit à l'intérieur. Enseigne-moi de le faire. Un vrai chrétien connaît cette lutte, le désir de connaître la volonté de Dieu et le désir d'être enseigné et poussé vers faire la volonté de Dieu. Pierre dit que le chrétien existe pour vivre non plus selon les convoitises des hommes. Ça, c'était notre manière de vivre avant de connaître le Seigneur. À partir de connaître Dieu, à partir de la nouvelle naissance, nous vivons non plus pour faire les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ça, c'est les désirs de base du chrétien. Et je crois qu'il n'y a aucun verset qui le dit mieux que 1 Jean chapitre 2, verset 17. Le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui c'est qui fait la volonté de Dieu? Mais ceux qui demeurent éternellement. Le chrétien vit sur un autre plan, sur une autre mentalité, sur une mentalité qui voit tous dans la lumière de l'éternité. Christ était notre plus grand exemple. Par exemple, Jésus disait en Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit à des disciples qui disaient, écoute, arrête, c'est l'heure de manger. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de accomplir son œuvre. Je me demande, est-ce que ça c'est votre nourriture? C'est-à-dire, nourriture, c'est l'élément de base qui nous maintient en vie. On vit par manger. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent rien que pour manger. Non, on mange pour vivre, plutôt que vivre pour manger. Mais ma nourriture, il parle spirituellement. Il n'y a rien de plus important, de plus fondamental que de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et chers amis, en tant que chrétiens, ça devrait être notre désir aussi. Rien de plus fondamental et de basique qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, sachant qu'il y aura 100 décisions à faire, la plupart très minuscules, semble-t-il banales, mais quand même qui dirigent, qui sont baignées dans la volonté de Dieu, le désir de ne rien faire qui risque d'être contre la volonté du Seigneur. Pour beaucoup de raisons, la gloire de Dieu en premier. Et puis, Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Jésus, la deuxième personne de la divinité en pleine égalité avec le Père, est descendu ici sur la terre, il s'est mis volontairement à la volonté de son Père. Il était un être humain rempli de l'Esprit de Dieu, qui agissait comme un être humain rempli de l'Esprit de Dieu, qui priait pour que Dieu l'éclaire jour par jour, même à Gethsemane, au Seigneur, si possible que cette coupe passe, néanmoins, ce n'est pas ma volonté qui est importante, c'est que ta volonté se fasse. Chaque chrétien, d'un degré ou l'autre, très faible peut-être, mais il est là, désire de plaire à Dieu, désire que la volonté de Dieu soit faite. Et puis Jésus, dans ce qu'on appelle le Notre Père, les trois premières requêtes, vous le connaissez, ils sont ici. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, première requête, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Est-ce que vous trouvez facile de prier ça? Désolé, ignorez ça. Est-ce que vous trouvez facile ou difficile de dire, Seigneur, j'ai ce projet. Non, je ne vais pas prier parce que peut-être ce n'est pas ta volonté. Et moi, je veux ma volonté. Ce n'est pas normal pour qu'un chrétien de prier comme ça. C'est une tendance, je sais. Mais est-ce que tu trouves facile, ou est-ce que tu trouves dans son cœur le désir, ou est-ce que tu trouves un sentiment de culpabilité quand tu ressens une résistance contre ce qui risque d'être la volonté du Seigneur par rapport à ce que vous pensez avec votre vision myope et incomplète, ce qui pourrait vous rendre heureux? Dieu sait ce qui peut vous rendre heureux, et rarement est-ce que ça correspond avec nos idées très myopes et très incomplètes. Donc, vous devriez dire, je suis désolé, mais il faut que je m'en occupe de ça. Alors maintenant, je mets ici, avec toutes ces choses que je viens de dire, quel est l'avertissement de Jacques dans notre texte? Quand nous lisons verset 13, « À vous maintenant qui dites, » et je voudrais que vous compreniez ce mot « dites » et le mot « lego » qui veut dire de parler avec réflexion et de parler avec raisonnement. C'est une déclaration réfléchie. C'est pas juste pas n'importe quelle parole qui sort de la bouche. C'est une personne qui a fait une décision. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est de prendre un entrepreneur typique chez les Juifs, qui étaient des grands entrepreneurs à l'époque, et qui aujourd'hui sont aussi, qui aller dans des villes et bien dans d'autres pays qui se développaient et qui faisaient du commerce et qui gagnaient de l'argent et qui étaient des gens prospères et affluents, qu'on dirait. Et Jacques dit à vous maintenant qui dites, donc il n'adresse pas tout le monde, il adresse ceux qui disent le suivant: aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Alors, il écrit à ces gens qui ont ces désirs. Alors, pensez le mot « désir » parce que ce que nous faisons, et Jacques veut que cet entrepreneur devienne un exemple, une illustration pour chacun de nous. On a tous ces entreprises, au moins imaginées dans l'avenir, des projets qu'on veut réussir, des choses où on est vague, on ne sait pas comment ça peut se faire, mais on ne veut pas juste tourner dans le rond, on veut avancer. Ce que c'est notre définition d'avancer, on veut être des succès. Quoi que ce soit notre définition de succès, on veut réussir. Quoi que ce soit notre définition de réussir, on veut améliorer notre situation, notre vie. À vous qui dites ceci, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, il y a deux principes ici. Deux principes qui n'exigent pas un homme spirituel de savoir. Deux principes ici qui sont des principes universels que chacun avec une sagesse naturelle, minimale, humaine, devrait comprendre. Et ça, c'est que personne ne connaît le futur. Personne ne sait comment ça va arriver demain. On a des intentions, on est presque sûr, mais tout le monde, si vous le poussez dans un coin, sais-tu sûrement que ça va arriver? Mais bien sûr, personne ne sait. On ne sait pas ce qui arriverait demain. Tout le monde sait ça. On n'est pas obligé d'être un être spirituel. Et tout le monde sait aussi le deuxième principe qui est noté. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Le mot vapeur, c'est le mot atmis en grec, qui vient du mot atmosphère. Vous êtes comme le vent dans l'atmosphère. Quand il fait froid et quelqu'un ouvre la bouche pour parler, il y a un pouf de brume, ça se voit et puis ça disparaît. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Ça, c'est une métaphore, ce n'est pas un simili. Vous êtes ça. Il dit, dans votre être humain, dans votre vie humaine, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Un mot qui sort, brume. Un deuxième mot qui sort, deuxième brume. Parce que le premier est disparu. Vous êtes comme ça. Une petite, sur l'écran de l'éternité, sur le long écran, ça devient de plus en plus petit, n'est-ce pas? Et vous êtes comme cela. Même des personnes qui ne croient pas dans l'éternité passée, ni dans l'éternité future, mais que dans le temps, savent historiquement, notre vie est très, très, très courte. Tout le monde sait ça. Alors, il souligne, je voudrais que vous notiez que dans ce verset, que je le mettrai ici en haut, il souligne cinq différentes choix que cet entrepreneur est en train de faire. Essayez de faire votre propre illustration, parce que vous faites aussi les mêmes choses. La première chose, c'est par rapport au temps, aujourd'hui ou demain. Par rapport au temps, on fait une choix. J'ai un projet, je dois réussir quelque chose. Ça commence demain, ça commence en août, ça commence en septembre, ça c'est pour l'année, projeté pour l'année 2015. Aujourd'hui ou demain, chacun fait un choix par rapport à l'avenir. Deuxième, c'est une question de lieu. Chacun est intéressé par savoir où il sera. Et Jacques, cet entrepreneur, dit, nous irons dans telle ville ou tel pays ou telle région. Nous irons. Et notez les verbes indicatifs qui disent, voilà ce qui sera le cas. Aujourd'hui ou demain, c'est fixe dans ma tête. J'irai dans une telle ville avec un certain projet qui va avoir une certaine durée. Nous y passerons une année, deux ans, un mois, une semaine, trois semaines en vacances. Nous allons faire ceci. Ce soir, on attend un groupe de 30 jeunes qui viennent de Suisse. À peu près 20 heures, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, nous allons partir à 3h30 le matin, depuis Zurich, en Suisse, en espérant d'arriver vers 18 heures, mais on ne sait pas comment sera la circulation, on ne sait pas si on va avoir des problèmes avec notre GPS, on ne sait pas s'il y aura une panne de auto. Mais en principe, on devrait être là à 20 heures au plus tard. Beaucoup de différentes possibilités que ce ne soit pas ce qu'ils pensent. On parle comme ça. On ne peut pas ne pas parler autrement parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. C'est intéressant que beaucoup de produits que vous achetez ou des contrats que vous signez qui disent les tarifs ici sont... peut être changé à tout moment sans préavis. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? C'est des grandes sociétés. C'est des sociétés avec beaucoup d'argent. Mais ils disent, ça peut changer à tout moment et sans préavis parce qu'on ne sait pas ce qui arriverait dans l'avenir. Donc, soyez prêts de réviser votre contrat. Parce qu'à cause des circonstances imprévues, les tarifs risquent de changer. La vie est comme ça. L'avenir est toujours comme ça, au mieux. Mais nous planifions le temps de commencer, le lieu pour mettre en marche cette entreprise, la durée. Nous passerons une année. Excusez-moi, je croyais que je l'avais déjà mis. Le projet même, nous ferons du commerce. Et même notre objectif, nous gagnerons de l'argent. chaque chose, cinq choix que nous faisons qui prévoient, qui planifient pour l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ces choses? Est-ce que c'est un verset qui dit, ah, si vous êtes un chrétien, vous ne devez pas planifier le temps. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas planifier le lieu. Vous ne devez pas avoir un projet avec une durée, avec un objectif de gagner de l'argent. Ça, c'est du monde. Est-ce que ce verset est en train de enseigner cela? Je ne crois pas. Le problème que Jacques est en train de souligner va plus loin que cela. Il avait déjà donné une insinuation. Il dit, vous ne savez pas, vous qui dites ceci, c'est-à-dire l'ego, vous qui assurez que ça sera comme cela, vous ne savez pas quelque chose qui est très connaîtrable, qui est très facile à savoir. Votre vie n'est pas sûre. Et votre, la seule chose qui est sûre, c'est que votre vie sera courte au mieux, au plus long. Mais l'avenir n'est pas sûr. Donc, ça donne l'impression qu'il est en train de reprocher certaines personnes, mais ce n'est pas une question de ne pas planifier. Au contraire, nous devrions faire des planifications. Jésus avait dit, par exemple, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pas pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer ?» En proverbe, bon, il y en a plein, je mettrai juste plusieurs. Les projets de l'homme diligent, c'est une positive, ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire qui agit sans réflexion, sans planification, juste parce que son cœur lui parle, il mène à la disette. Et si vous constatez soigneusement que vous n'avez pas pensé trop longtemps pour connaître des gens qui vivent comme ça, et qui vivent dans la disette parce qu'ils ont beaucoup de belles idées, mais la bonne planification n'a pas été faite comme il faut. Au Proverbe 19-21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Est-ce mauvais? Non, mais c'est le dessein de l'Éternel qui sera accompli. Ah, c'est celui qui dit si Dieu veut. Et c'est pas celui qui prend un projet qui me plaît et qui espère, oh, si seulement Dieu peut s'accorder avec mon plan. Ah non, 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 ça c'est à l'envers. Oh, avec la maturité chrétienne, on comprenne au fur et à mesure que l'envers c'est toujours mieux. Dieu, je me place tout entre tes mains, je ne veux rien faire sauf ce que tu veux. Mais j'ai beaucoup de bonnes idées. Les jeunes rêvent. Ils devraient rêver. Et ils devraient avoir des visions de l'avenir. Mais tout cela, c'est dans la tête. C'est les bonnes choses, souvent, dans la tête. À condition que nous verrons dans un instant, encore quelques versets, un ou deux. Proverbe 24, verset 27. « Soigne tes affaires du dehors. » Puis mets ton champ en état et puis tu bâtiras ta maison. Je ne connais pas tous les détails de ce que l'agriculteur est en train d'aviser à son fils, mais il y a chaque chose à sa place avant de bâtir une maison. C'est la façon dont Jésus a exprimé. Il s'assoit et considère le coût, le prix et les choses nécessaires avant de commencer la construction. Ou le verset, ou le passage que nous connaissons peut-être le mieux, et on cherche à s'éloigner, qui dit, va vers le fourmil paresseux, considère ses voies, deviens sage. La fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Va vers lui. Apprendre à être industrieux, apprendre à planifier pour l'hiver, en été. Et il est nécessaire de faire beaucoup de choix. Donc, quels sont... Il n'y a rien de mauvais ici. Mais quel est le problème que Jacques souligne? Le problème, c'est que Dieu est absent. Dieu est absent dans tout ceci. Pas simplement un Dieu qui est dans le pneu de secours dans le coffre, au cas où que mes plans tombent dans l'eau et j'ai besoin de rentrer à la maison avec un pneu de secours, ou j'ai besoin de faire autre chose. Et c'est bien d'avoir un Dieu, un lampe de Aladdin, à condition que mes projets trouvent des obstacles. Ce n'est pas ce que Jacques est en train d'enseigner quand il dit « si Dieu veut ». Et le reste de ce... Oh. Ok, je n'ai pas ici. Regardez dans vos Bibles. J'avais... Je crois que je l'avais mis comme le prochain cliché. En Jacques chapitre 4, verset 15, « Au lieu... de parler comme vous parlez des choses qui en soi ne sont pas mauvaises, vous devriez dire au contraire quand même. Si Dieu le veut, nous vivrons, verset 15, nous vivrons, c'est-à-dire si Dieu ne veut pas, nous ne vivrons pas. Mon ami, je dis, qui a 3 ans plus que moi, était en train de tondre la pelouse chez un voisin qui en avait besoin, et il est tombé mort d'une crise cardiaque. C'était un choc pour tout le monde. C'était un homme qui aime beaucoup le Seigneur, qui servait les autres, qui n'en fait jamais dans quoi que ce soit, sans qu'il prie et cherche la volonté du Seigneur. Je ne serais pas surpris s'il avait prié, « Seigneur, il fait un peu chaud aujourd'hui. Est-ce que je devrais, avec mon problème cardiaque ?» Peut-être qu'il n'avait pas prié, je ne sais pas ce jour. De toute façon, c'était quelqu'un qui vivait régulièrement. Il est connu comme quelqu'un qui marche avec le Seigneur, avec une relation intime avec Dieu, et qui serve joyeusement le Seigneur, et qu'il est mort comme il servait joyeusement. Il est avec le Seigneur et l'enterrement sera la semaine prochaine. Mon fils Paul était son pasteur pendant une quinzaine d'années presque. Et puis, si Dieu veut, je vais vivre pour faire mes projets de demain. Je crois pas de après-demain. Si Dieu veut, je vivrai pour faire mes projets d'après-demain. Et nous ferons ceci ou cela qui risque de durer 1 an, 2 ans, 3 ans, toute la vie. Mais le problème, c'est verset 15, 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Alors, sachez, n'oubliez pas que ça, c'est le thème en chapitre 3 et en chapitre 4. La sagesse du monde, la sagesse de Dieu, la sagesse du monde qui met le moi en avant, je vis pour moi. Si vous êtes dans mes plans, c'est parce que vous êtes dans mes intérêts. Si je mets à côté de vous pour devenir votre ami, c'est parce que vous risquez de m'aider à avancer dans mes projets pour moi. Si je ne aperçois pas que vous allez m'aider à avancer, je vais vous repousser. Je ne suis pas intéressé en vous, à moins que vous puissiez me faire heureux, vous puissiez me faire plus riche, vous puissiez me faire avancer mes idées, mes désirs. Oh, c'est mes désirs, mes désirs, mes désirs qui est souligné en chapitre 3 et en verset 4 et en chapitre 4 et aussi ici. Le problème n'est pas que vous ne devriez pas faire ces choix. Mais le motif derrière vos choix sont entièrement égocentriques, tournés vers soi, en complètement contradiction dans la raison pour laquelle vous avez été créé. Oh, que le Seigneur puisse nous aider à saisir la brévité de notre vie. Job disait, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent et plus d'espérance. Car nous sommes de hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Et encore un dernier. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Ça, c'est l'histoire de votre vie et de ma vie. Et alors, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ce qui est intéressant, que c'est rare que je ne crois jamais avoir parlé avec un jeune chrétien, un chrétien qui est jeune, qui n'est pas tout de suite intéressé quand on dit on va parler de comment connaître la volonté de Dieu pour votre vie. L'an dernier, dans le groupe de jeunes, nous avons étudié ce petit livre par John MacArthur qui dit « J'ai trouvé la volonté de Dieu », dans lequel John MacArthur souligne cinq choses que je vais mettre ici sur l'écran. Les choses que John MacArthur souligne qui sont décrites à la lettre dans la parole de Dieu comme la volonté de Dieu pour notre vie. Mais le non-chrétien ne va pas s'intéresser sur ça. Et le premier, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Votre salut. Si vous avez entendu parler de Jésus-Christ, et vous avez entendu que Jésus-Christ vous a offert gratuitement, par la foi, une vie éternelle en lui, le pardon de vos péchés. Et vous avez rejeté ce pardon. Comment pourriez-vous demander sa direction dans votre vie quand vous rejetez en rébellion contre la première chose qui lui intéresse, votre salut, vous soyez sauvé de vous-même, sauvé de vos péchés, et sauvé en Christ. Ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Et la deuxième chose que John MacArthur souligne, c'est la volonté du Seigneur que vous soyez remplis de l'Esprit. Désolé, j'ai mis dans une autre couleur, mais je crois que vous pouvez lire le rouge. C'est pas très visible. Que vous soyez remplis de l'Esprit. Et il dit, peut-être si vous avez votre Bible, vous pouvez facilement trouver, ça serait une bonne chose de lire, parce qu'en verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi? Que vous ne soyez pas enivrés du vin, qui est le débauche, mais que vous soyez remplis de l'Esprit. Et ça veut dire tout simplement être sous contrôle de l'Esprit de Dieu dans l'obéissance et marchant avec lui. La volonté de chaque chrétien étant sauvé de ses péchés et de sa rébellion et maintenant la volonté de Dieu qui soit contrôlée, dirigée, en plein contrôle de l'Esprit Saint. Et la troisième chose, c'est que la volonté, ce que Dieu veut, dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est votre sanctification. Et dans ce contexte, il est en train de parler de la pureté du corps et de l'esprit. Abstenez-vous de l'impudicité, de la débauche, que vous soyez purs, la volonté de Dieu. C'est que vous soyez pur et saint. Et la quatrième chose, c'est C'est une question de soumission aux autorités que Dieu met au-dessus de nous. Sachez que le premier péché dans le jardin d'Éden, c'était de se reculer contre l'autorité divine de Dieu. Satan leur a convaincu qu'ils seraient beaucoup plus heureux si eux-mêmes ils étaient au contrôle, au volant dans leur vie. Mon voisin avec qui je parle 2 ou 3 fois par semaine me dit, je veux regarder dans le miroir un jour et dire, Nicolas, tu as réussi, pas à cause de ton psy, pas à cause de ton psychoanalyste, pas à cause de ton pasteur, mais parce que toi tu as réussi. Je veux être fier de moi. Et ça se comprend pourquoi il parle comme ça, parce qu'il est enseigné de penser comme ça. Dans le système d'éducation, ici, le système humaniste, le système sans Dieu. Tout le monde veut avoir confiance en soi, et Dieu veut que nous apprenions d'avoir confiance en lui, d'abord dans sa volonté, et que nous soyons soumis aux autorités. Le premier, c'est nos parents. Dieu nous a donné des parents, imparfaits qu'ils soient, pour que nous puissions être protégés comme tous ceux qui pourraient nous détruire sans leur protection d'autorité, avec toutes ces imperfections. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que jeune depuis qu'on est tout petit? Un bébé qui crie parce qu'il n'est pas donné ce qu'il veut, parce que sa mère sait que ce n'est pas bon qu'il ait ce qu'il veut. Il ne peut pas comprendre cela. Ça ne l'arrête pas pour qu'il se mette en colère. Hélas, beaucoup de parents se donnent quand même ce que les enfants exigent pour qu'ils s'arrêtent de pleurer à leur propre non-profit. Mais ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Et la 5e et dernier, c'est que vous souffriez, afin que ceux qui regardent de l'extérieur, le verset continue par dire, puissent glorifier Dieu quand ils constatent que notre position est pour la gloire de Dieu. Il vaut mieux que je lise ça parce que j'ignore les paroles. 1 Pierre chapitre 4 verset 19 qui dit verset 18, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme aux fidèles créatures en faisant ce qui est bien. Oui, c'était un peu plus haut où ça parle de la nécessité de devenir un témoignage aux autres. Le chrétien qui se soumet à la souffrance à cause de sa foi. Ce n'est pas la souffrance de juste maladie, etc., etc. C'est la souffrance qui vient quand on vit pour Dieu et on est parfois mis à l'écart, pas brûlé au bûcher, mais mis à l'écart ou regardé avec un peu de condescendance, etc. Ça, c'est de la souffrance que le chrétien accepte joyeusement et parfois avec honte, et ça ne devrait pas être le cas. Imaginez comme ils avaient regardé, méprisé, avec condescendance, le Seigneur lui-même. Et Jésus dit, si me persécute comme ça, il vous le fera ainsi. Ça fait partie du plan de Dieu. Et John MacArthur termine le livre, après parler dans les livres de ce sujet, je n'allais pas dire, si ces 5 choses sont bien en place, faites ce que vous voulez. Parce que vous allez vouloir faire la volonté de Dieu et il ne vous permettrait pas de faire des bêtises. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier, il ne faut pas prier entre 2 choses, etc. Mais nos désirs deviennent les désirs de Dieu. Et nous avons la liberté de faire face à l'avenir. Vous connaissez sans doute ce passage, beaucoup. Psaume chapitre 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Je recule juste un instant pour dire, la personne sauvée, remplie de l'Esprit, pure dans son cœur, soumise à ses autorités, qui sait même souffrir pour Dieu, peut se confier en l'Éternel, pratiquer le bien. Ça va avant les questions de où est-ce que je vais passer ma vie, où est-ce que je vais lancer cette entreprise, quand et pour combien de temps, et quelle serait l'entreprise. Non, 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 tout ça c'est à part. Les choses qui sont primordiales, c'est la préparation de cela. C'est-à-dire, ce n'est pas dire, ça c'est la base pour avoir le mieux. Non, ça c'est avoir la réalité pour avoir des choses qui nous faire vivre dans ce corps temporaire pendant que nous soyons en train de chercher le royaume du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas un truc pour manipuler Dieu. C'est un changement de tes idées à ses idées. Pour que tu vois pour la première fois, waouh, heureusement Dieu n'a pas répondu à mes prières avant. Heureusement Dieu m'a bloqué de ce projet. Heureusement Dieu a fermé la porte quand je croyais que c'était la bonne chose que je désirais de tout mon cœur et il ne m'a pas permis, j'ai pleuré en colère. Merci Seigneur de ne me pas écouter quand je crie en colère. C'est après qu'on voit ça. Recommande ton sort. Ton sort. Pratiquer tes pratiques de tous les jours, tes désirs du cœur de tous les jours, ton sort de l'avenir. Recommande ça à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Et Proverbes 3, 5 et 6, peut-être le plus connu en proverbe. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Aujourd'hui et demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous ferons de commerce, nous gagnerons de l'argent, je vais le faire, je vais faire ce temps, je vais faire ce lieu, je vais faire ce projet, je vais gagner tel argent, moi, comme si je vais vivre pendant toute l'éternité. Maintenant, l'Internet a tout changé, mais dans ma jeunesse, si vous l'achetez des actions dans les bourses, vous devez aller à Wall Street ou quelque part et vous voyez des trucs qui changent tout le temps et tu regardes cela et dès que ça change, tu téléphones tout de suite. Okay, achète ça, vende ça. J'ai vu les visages des hommes qui avaient 80 ans comme ça. Tu téléphones. Avancez mon bourse un tout petit peu. Vendre cette action, acheter cette action. Et à chaque fois, je me dis, un vieil homme comme ça, 10 ans d'ici, il ne sera plus en vie, probablement. Même pas 10 ans. Il doit sortir avec sa canne. Rentrer à la maison, épuisé, parce qu'il était si intense, pour améliorer son bourse. La folie de ceux qui précipitent avec grande délibération l'avenir comme si l'éternité dépendait sur ça. Et hélas, ils n'en pensent jamais de l'éternité. Dieu est absent. Est-ce qu'il est absent dans vos pensées? J'ai mis 2 traductions pour terminer. Cherchez premièrement, primordialement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses qui sont loin de primordial. Oui, important parce qu'il faut vivre, mais secondaire, loin de primordial. Quand même nécessaire parce qu'on doit manger, on doit vivre, on doit s'abriter, on doit se mettre de A à B, on doit donner à manger à nos enfants, on doit laisser un tout petit peu pour que nos enfants puissent commencer aussi un peu plus aisément que nous, peut-être. Mais attention, la vie est courte, la folie de celui qui fait toutes ses planifications avec grande délibération, pour rien, pour que ça s'arrête et l'éternité commence. Je sais que entre nous, il y a plusieurs qui doivent faire des décisions assez très importantes cette année. Dans les semaines, des heures à venir. Quelle est le motrice de votre décision? Quelle est votre raison d'être par rapport à votre choix? Vous risquez de ne pas pouvoir savoir. Mieux de rentrer à la maison, de vous mettre à genoux avec ce passage, avec plusieurs de ces versets qui ont été utilisés, et de dire au Seigneur, tu connais l'impureté de mes idées, tu connais l'égocentrisme qui est mélangé dans mon désir de te glorifier. Je suis petit, je ne peux pas faire la bonne choix, je suis incapable de faire la bonne choix. Je veux te glorifier. J'accepte comme mon sauveur personnel. Je veux que je sois contrôlé par ton esprit. Je veux être soumise à mes autorités et demander leur conseil et de se soumettre pour dire, maman, papa, je m'assois devant ta sagesse parce que ma sagesse est myope, je suis jeune. Je sais que tu ne connais pas tout, mais tu as quand même la perspective d'une autre génération avant moi, et je sais que tu veux le meilleur pour moi. Où est-ce que l'orgueil vous garde pour dire que je ne veux pas. Mes parents m'ont fait ça. Ils n'ont pas été bien vers moi ici. Ça, c'est parce que nous avons tendance de viser les défauts, de viser les injustices. Et oui, il y avait des injustices, comme vous en aurez avec vos enfants, éventuellement. Et beaucoup de choses, de sacrifices, de choses qu'ils avaient fait pour vous, des larmes qu'ils avaient versées pour vous, la perte de sommeil pour qu'ils puissent arranger votre maladie, vous donner votre aspirine, votre médical bon de la vie, de vous bercer parce que vous ne pouvez pas dormir et eux non plus à cause de vous. Ah, l'amour qu'ils ont pour vous, le grand désir que vous réussissiez, et s'ils sont chrétiens, que vous donniez votre vie entièrement au Seigneur, qu'ils vous ne cherchez que sa volonté. Mettez-vous devant eux et demandez avec toute liberté leur conseil. Ce n'est pas à dire qu'ils vous diraient tout ce qui est correct, mais pesez avec soin les conseils de vos parents qui sont donnés par le désir de vous aider et de vos autorités. Et Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu vous protégera. Imaginez les complexités des variables dans la vie. Je termine avec cette illustration. Prenez 10 centimes, 10 pièces de 1 centime, et mettez 1 sur le premier, 2 sur le deuxième, 3 sur le troisième, ainsi de suite, pendant 10. Alors mettez-les tous ensemble et mettez-les dans votre poche, Et maintenant, sans regarder, mettez dans votre... et enlevez numéro 1. Vous avez une chance sur 10 de faire sortir numéro 1. Compris? Le maths est déjà trop fort. Alors, maintenant, prenez 1 et 2 consécutifs. Ah, maintenant, vous n'avez qu'une chance sur 100 de prendre 1 suivi par 2. Alors maintenant, prenez 1 suivi par 2 suivi par 3 sans regarder. Alors maintenant, vous avez une chance sur 1 000, sur 1 000. 4, une chance sur 10 000. Et si ça va jusqu'à 10, vous savez combien ça fera? La possibilité que vous allez prendre consécutivement tout ce qui est là, une suivie par deux, suivie par trois, jusqu'à 10, et une chance sur 10 milliards. Et puis il a dit avec un peu d'humeur, alors si vous ne pouvez pas contrôler 10 centimes dans votre poche, comment pensez-vous que vous pouvez contrôler tous les variables, des millions de variables dans votre vie, que vous n'avez aucun contrôle du tout? Votre vie ne sera pas ce que vous avez prévu. Allons aujourd'hui ou demain dans une certaine ville pour faire un certain commerce pendant une certaine durée pour gagner une certaine somme d'argent. Vous pensez réellement que ça pourrait arriver avec tous les infinis détails qui risquent de vous bloquer à gauche et à droite? Il n'y a personne qui réussit de réaliser toutes ces choses. C'est rare si ça arrive. Et comment ça se peut que le chrétien mettrait Dieu à côté, qui contrôle tous les milliards des détails exactement comme il veut à ceux qui soumettent à lui? C'est la folie des folies. C'est juste de dire, si Dieu ne se présente pas, je ne le crois pas en lui. La Bible dit, c'est le fou qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et plus que vous vivez connaissant Dieu, plus que vous serez, c'est la vérité. C'est fou d'ignorer, nier, rejeter Dieu.